Après, il y a beaucoup d'enjeux qui sont derrière et qui en découlent. Donc, qu'est-ce qu'on en fait dans les centres que nous gérons et en particulier dans les tiers-lieux et dans les cinq toits? Parce que c'est aussi une notion qui est entachée d'un certain nombre de paradoxes. On a de plus en plus de précarité, de plus en plus de besoins, et donc d'une certaine manière une forme de massification de ces besoins. On aurait envie de prendre en charge tout le monde, de s'adresser avec l'accueil inconditionnel qui nous est extrêmement cher au plus de nombre possible. Mais le travail social, c'est pas un raisonnement en masse, c'est un raisonnement d'individus. On parle de l'humain, on parle de personnes qui ont toutes leurs caractéristiques, qui ont tous leurs besoins spécifiques. Et là, le travailleur social, il est face à quelque chose qui est compliqué parce que il est face à un grand nombre de situations qu'il doit résoudre, mais il est face à autant de situations qui sont différentes les unes des autres. Et je crois que c'est tout l'hommage qu'on doit rendre aux travailleurs sociaux, c'est d'avoir une immense capacité d'adaptation, qui est une capacité d'écoute, qui est une capacité de lien, qui est une capacité technique, mais qui est avant tout une capacité d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation, elle me conduit un peu à un deuxième paradoxe, c'est que on voit de plus en plus dans nos centres d'hébergement des personnes qui ont des très longs parcours de rue, qui ont de très grandes difficultés avec une précarité qui est pas de plus en plus dure, mais néanmoins qui cumule un certain nombre de facteurs qui peuvent être des liens sociaux qui sont très déstructurés, des problématiques de santé mentale, des problématiques d'addiction, des problématiques de titre de séjour, bien évidemment. Et quand on cumule l'ensemble, on demande aux travailleurs sociaux d'être un petit peu des experts de tout. Alors, ils sont pas seuls, c'est du travail d'équipe. On a différentes catégories, différentes professions dans le travail social qui viennent répondre à certaines problématiques. Mais néanmoins, on parle d'ETS, des travailleurs sociaux, qui englobent une catégorie socio-professionnelle, d'ailleurs de manière parfois... Et je me reconnais là-dedans, assez maladroite. On devrait au contraire parler des différents métiers parce qu'on parle d'un très grand savoir-faire. Et ce métier il répond à des situations de plus en plus complexes avec des moyens qui ne suivent pas ces besoins qui, eux, augmentent. Il y a un rapport assez intéressant qui a été fait par un collectif que peut-être certains d'entre vous suivent, qui est le collectif Nos Services Publics. Armel m'en avait envoyé encore leur dernier écrit aujourd'hui, mais c'est un collectif qui produit beaucoup de choses et qui a produit un rapport qui montre qu'au fur et à mesure du temps, les besoins de la population ont augmenté, mais les moyens qu'on attribue aux services publics ont diminué. Et le travail social, finalement, c'est un service public, d'une certaine manière, et il est exactement dans cette situation-là. Les besoins augmentent, mais les moyens diminuent. Et là, on est face à un second paradoxe, qui est à l'image du chapeau que je mettais, c'est-à-dire quelle est la société qu'on veut. Et si on veut une société du lien, il faut avoir conscience des besoins et donc des moyens qu'on met en face. Et puis, je terminerai par là et je passerai la parole sur là où on est le travail social et le paradoxe qui est le sien aujourd'hui. Bah, c'est le regard que peut en avoir l'opinion, le grand public, les non-connaisseurs du travailleur social sur nos métiers. À l'époque du Covid, les personnes du lien, c'était les infirmiers, mais c'était aussi les travailleurs sociaux par extension, je dirais, tous ceux qui se sont occupés des malades du Covid, et Dieu sait si les équipes d'Aurore et de l'ensemble des structures d'accueil et d'hébergement ont fait front, c'est des structures qui ont été applaudies, qui ont été félicitées, et donc il y a un regard, je dirais, de grande fierté sur le travail qui est fait, et pourtant la même société, les mêmes personnes, juste dans un contexte différent, va manifester, va s'opposer, va critiquer l'ouverture d'un nouveau centre en bas de chez soi, la prise en charge de personnes de plus en plus éloignées, de plus en plus difficiles, et on voit une opinion qui, William, tu disais, se radicalise, et c'est exactement ce que l'on observe. Nous avons encore eu une manifestation devant l'un des centres pour demandeurs d'asile que nous avons essayé d'ouvrir récemment. J'ai les collègues de Nantes qui sont présents dans la salle, je les salue. On a eu l'ouverture du CADA de Saint-Brévin qui a été très difficile l'année dernière. Et donc on voit une opinion publique qui est plutôt en opposition avec un certain nombre de centres de prise en charge que nous ouvrons. Et pourtant, une reconnaissance à certains moments que ces métiers du lien sont absolument indispensables pour qu'une société fonctionne. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu et qu'il nous faudra résoudre assez vite maintenant si on ne veut pas arriver à des fractures qui sont trop importantes pour être recollées sans que les différents morceaux se voient. Voilà en gros un portrait très rapide de là où on est le travail social à mon sens, et ce mot de sens est celui que je souhaite que l'on retienne. Je crois que le sens de nos missions, c'est le cœur du sujet, et l'expérience des Saintes Toits, et j'en termine là, Et ben c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est une expérience qui a permis de mettre le travail social au cœur du projet, avec différents publics qui se sont croisés, tant en matière de public hébergé que de public travaillant sur site, que de personnes du quartier qui sont venues. Et en créant un lieu dans lequel tout le monde se rencontre, et ben on a créé du lien. C'est ce que les indicateurs montrent d'une certaine manière, si j'essaie de les résumer beaucoup trop vite évidemment, et ça sera précisé tout à l'heure. Mais je crois que dans ce type d'expérience, dans ce type d'innovation, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique une société dans laquelle les gens se parlent et les gens ont envie d'aller les uns vers les autres. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà.
Merci beaucoup. Frédéric.
Pour prendre la suite, il me semble que le travail social est toujours au cœur des projets, en tout cas de résolution et de résorption des problématiques de pauvreté. Certainement, la différence avec les Saintoises, c'est que c'est un écrin, c'est-à-dire c'est une expérience et une expérimentation de mise en visibilité de ce que le travail social a de meilleur. Je voudrais juste revenir sur deux choses, sur l'origine peut-être un peu du travail social aussi, de là où nous venons. Moi, je suis travailleur social au départ, à la base aussi. Et aujourd'hui, avec la Fondation Abbé Pierre, j'observe beaucoup d'associations. Il me semble que l'origine du travail social, c'est deux entrées principales et qui sont chapeautées par l'action sociale de façon générale. La première, c'est la bienfaisance. C'est l'histoire de la question de la gestion des précarités et des pauvretés en France, la bienfaisance, les églises, les organisations religieuses, qui ont apporté une réponse du point de vue social et de la santé et de la lutte contre les précarités d'une certaine manière. Et de l'autre côté, un courant beaucoup plus citoyen qui se situe après la Révolution française, qui a été l'organisation par les populations de construction de solutions du quotidien. Aujourd'hui, on l'appelle économie sociale et solidaire. En tout cas, c'est de l'économie sociale. Et de cette économie sociale est quand même née la question de l'association de la 1901, qui a abouti longtemps après. Il y a eu beaucoup de résistance. Je ne reviens pas dans les détails parce que ça serait trop long. Mais en tout cas, ce statut d'association de la 1901 a été et est toujours un espace de construction et de mise en œuvre du travail social, avec en parallèle un service public qui l'a développé, déployé, on va dire, un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, et a essayé de le construire. Et aujourd'hui, en tout cas ces 30 dernières années, l'a beaucoup délégué aux associations. Je crois que la difficulté qu'a aujourd'hui le travail social, c'est de renouer avec une identité première, parce que ces intervenants sociaux, ces travailleurs sociaux occupent des espaces de travail, des organisations, sont managés, sont accompagnés dans une diversité de métiers, une diversité de cultures et une diversité de structures organisationnelles qui ne fait pas corps. Et il me semble que la première difficulté du travail social, c'est de ne pas être un corps social à part entière. C'est-à-dire qu'il n'est pas organisé, comme diraient d'autres, comme une corporation. Et face à l'adversité, face à un contexte qui se dégrade, eh bien, le travail social a du mal à faire un contre-pouvoir, organiser un contre-pouvoir pour défendre à la fois des conditions de travail, à la fois des conditions d'exercice, et puis à la fois aussi une identité, une visibilité sociale qui puisse être appropriée par chacun. Donc, de l'émiettement, de l'éparpillement, un sentiment d'être un corps un peu disloqué, en même temps qui avance, en même temps qui produit des solutions, qui contribue à faire des solutions, mais qui a du mal à construire des argumentaires et des stratégies de contre-pouvoir qui permettent à la fois de protéger les personnes les plus précaires, les plus fragiles, et à la fois de se protéger soi. Ça, c'est une première chose que je voulais partager avec vous. Donc, une forme de fragmentation. La seconde chose que je voulais partager, c'est quand même, dans cette débâcle sociale et sociétale, où le filet de solidarité qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale commence à s'épuiser, s'émietter du côté de l'aide sociale comme du côté des actions qui sont menées pour contrer la pauvreté, il y a quand même une puissance de l'agilité et de l'ajustement des travailleurs sociaux qui, de mon point de vue, pourrait être un levier très intéressant de valorisation de ce métier. Au fond, dans la représentation de la société civile, le travail social, c'est du dossier. Pardon, je vais être extrêmement triviale, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Or, chaque jour, presque chaque minute, les travailleurs sociaux, individuellement ou collectivement, ajustent leur compréhension du monde, ajustent la manière dont ils reçoivent des situations individuelles et ajustent la palette des solutions qui s'offrent aux personnes, parce que les dispositifs de la puissance publique, en tout cas ces 10 dernières années, ont extrêmement bougé, se sont dégradés et sont des recours de plus en plus complexes pour les personnes et pour les travailleurs sociaux qui les accompagnent. Et puis il y a un troisième point que je voulais soulever et qui revient à mon propos premier autour de l'action sociale, c'est justement cette identité de co-construire la solution du quotidien. Il me semble que les travailleurs sociaux ont ça dans leur ADN, il me semble que les organisations, très souvent associatives mais du service public aussi, s'appuient peu sur cette capacité à être dans ce que nous avons désigné comme la capacitation, c'est-à-dire, on parle beaucoup d'autonomisation des personnes, et il me semble que ces tiers-lieux et d'autres lieux que nous accompagnons à la Fondation Abbé Pierre créent des conditions plutôt de faire équipe entre les personnes accompagnées et les travailleurs sociaux. C'est-à-dire de tout à coup co-construire la solution qui va être appropriée et prise en main par la personne, sans forcément qu'il y ait ce fameux rapport de domination qui peut exister, qui existe à certains endroits, mais dont il est intéressant de noter, en particulier sur les cinq toits et dans d'autres lieux, je le rappelle, que ce rapport s'inverse. Cette inversion du rapport, c'est-à-dire ce rééquilibrage du rapport entre le travailleur social, la famille ou la personne accompagnée, c'est extrêmement coûteux pour le travailleur social quand les organisations qui accompagnent et managent les travailleurs sociaux ne se rendent pas compte de l'énergie que ça demande, de l'inventivité que ça demande, et parfois ne le valorisent pas. Et je pense que l'intérêt des cinq toits, avec les partenaires, dont l'association Aurore, qui ont permis la possibilité, je parlais d'écrin au début, de mettre en écrin cette capacité à faire ensemble, c'est quand même aussi, pour le travail social, d'une part la possibilité d'être reconnu dans des compétences et des manières de faire qui le sont rarement et qui sont rarement identifiées. D'autre part, c'est faire corps, mais faire corps avec une partie de la société qui est autre que le travail social ou l'associatif traditionnel, des artisans, des entreprises, une coopérative, peu importe, mais en tout cas, d'être ensemble et de faire ensemble quelque chose au quotidien qui tout à coup s'éclaire par la combinaison des compétences, des expériences de vie et des savoir-faire de l'ensemble des acteurs, et que ça, pour le travail social, ça fait du bien individuellement, mais ça fait aussi du bien pour se recomposer des marges de manœuvre et se recomposer des perspectives sur ce métier. Je vous rejoins, qui est clé dans cette société, qui est très mal regardée, mais dont nous avons organisé la propre invisibilité.
Merci Frédéric. Donc un contexte qui se dégrade, des besoins qui augmentent, des moyens qui diminuent. Je fais une synthèse très rapide. Hein, mais...
On a fini sur des points positifs.
On a fini sur des points super positifs. Et effectivement, notamment la capacité à faire ensemble, à faire corps. Florian, est-ce que toi tu vois des pistes pour sortir le travail social de la crise ?
Vaste sujet, mais heureusement qu'on garde encore tout un engagement qui est le nôtre et qui est celui de l'ensemble des équipes pour avoir de l'espoir dans tout cela. Et en tout cas, on continuera d'essayer d'être force de proposition. Donc oui, pour essayer de se sortir de l'ornière actuelle ou de ce sentiment dans lequel nous sommes, je dirais que la première chose, c'est de revenir au sens. J'ai beaucoup insisté là-dessus tout à l'heure et je continuerai à le faire parce que c'est à mon avis par là qu'il faut commencer. Et le sens, c'est les personnes, leurs difficultés, l'humanité qu'on leur doit et la société qu'on veut construire autour. Et je crois que si on veut que le travail social sorte de la crise, il faut arriver quand même à poser cet enjeu et à revenir sur quelle ambition on se donne au sein de la société. Vous disiez, en travaillant ensemble, en s'y mettant à plusieurs, en ouvrant des collaborations avec d'autres, on arrive à produire un travail social qui est différent et qui est utile. J'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que on l'observe et ça fonctionne. Au 5 toits, on avait un tiers-lieu qui permettait à du grand public de venir, mais qui venait aussi à la Bricole pour réparer une chaise, faire passer une table ou que sais-je, et qui, en discutant avec des personnes hébergées parlant pas forcément le français, ben avec passe-moi la clé, passe-moi le tournevis, on apprend le français comme ça. Et donc, en fait, avec ces échanges, eh ben on crée de nouvelles formes de travail social. Et je crois sincèrement que c'est à travers ce type d'innovation sociale qu'on revient au sens et qu'on revient surtout à comment est-ce que on décloisonne et on ouvre les centres sur l'extérieur. Cette notion-là d'innovation sociale et de travail en collaboration, On voit partout que ça fonctionne quand on le fait. Je parlais de collègues de Nantes tout à l'heure. Nous y avons ouvert un centre pour grands marginaux sur un ancien terrain vague. Donc, c'est des bâtiments préfabriqués temporaires qui sont installés ici où on y accueille des personnes qui sont rejetées de à peu près partout. Certaines ont fait de la prison, d'autres ont passé beaucoup de temps de rue. Il y a des difficultés d'addiction et j'en passe. Et ces personnes sont vivent ici, vivent bien, c'est-à-dire que la structure, elle fonctionne, il y a un travail qui peut se faire et les personnes progressent, donc elles tiennent, c'est possible. Mais la structure, elle tient aussi dans son voisinage. C'est-à-dire que là, on a un bâtiment qui va être construit et on en échange avec les voisins qui sont autour et il n'y a pas eu de recours sur le permis de construire. Et donc, ça veut dire que c'est possible aussi d'arriver à discuter, d'arriver à collaborer, d'arriver à faire comprendre ce que nous faisons. Je ne dis pas que c'est facile et je salue même le travail des équipes qui ont réussi à le faire. Mais je dis que c'est possible. Et on gagne, à mon sens, à chaque fois qu'on arrive à faire savoir ce que nous faisons et à démontrer à la fois les parcours des personnes qui sont invisibilisées dans la société, et je crois qu'il est important qu'on mette en avant ces parcours-là, mais qu'on donne aussi à voir ce qu'est la nature de ce métier, que c'est pas juste un métier technique qui est fait pour résoudre des problèmes, qui est fait pour ne pas voir les situations de précarité, mais qui est un métier qui est fait pour créer du lien. Donc pour sortir de la crise, si j'essaye de résumer ma pensée, je dirais d'abord de mieux parler du travail social, de réexpliquer ce que c'est, d'arrêter d'invisibiliser les personnes en réexpliquant les parcours et en mettant en avant les réalités de la précarité, de ce qu'elle est et des possibilités de sortie grâce au travail social. Et puis l'innovation sociale, quand même, ce qu'on a fait dans un certain nombre de tiers-lieux montre qu'en s'ouvrant sur l'extérieur, on arrive à changer le regard et on arrive aussi à créer des manières détournées d'accompagner des personnes de manière à les faire progresser. Et puis, je termine juste pour sortir le travail social de la crise. Je dirais une chose, il faut qu'on prenne soin de nos travailleurs sociaux. On ne va pas ici parler des questions de rémunération ou autres. C'est quand même des sujets qui sont importants. Et je le dis de manière avec toute la gravité du sujet, parce que ce sujet est un sujet complexe sur lequel on aimerait progresser. Il y a eu des progrès qui ont été faits qui sont insuffisants. Et il y a encore du chemin à faire pour faire de cette profession une profession qui soit au cœur de la société et qui soit reconnue en tant que telle. Nous, ce qu'on peut faire à notre échelle, ce sujet étant largement dans les mains des budgets qui nous sont alloués, bah c'est aussi en matière de formation, en matière de travail d'équipe, en matière d'accompagnement, je crois, en matière de management. Je crois que nous avons aussi des sujets qui sont au cœur de nos métiers, parce qu'on se doit aussi de prendre soin des travailleurs sociaux si on veut se sortir de la crise.
Merci. Donc des moyens, de la formation pour les travailleurs sociaux. De l'innovation, bien sûr. Frédéric, des pistes de sortie de crise ?
Je ne sais pas si c'est des pistes, parce que c'est des autoroutes. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose autour de la responsabilité qu'on fait peser au travail social, justement du changement de regard de la société sur la pauvreté, les précarités, les difficultés, qui me semble être une lourde charge pour le travail social. Il me semble pas que la question de la pauvreté et de la précarité échappe à chaque citoyen. Il me semble qu'il y a un vrai sujet là à renouer avec la société civile autour de l'enjeu des luttes contre la précarité, des luttes contre l'inéquité de traitement. Et je crois que c'est aussi l'affaire, et c'est pour ça que ça fonctionne, je trouve, bien dans ces tiers-lieux différents que j'ai pu rencontrer autour de notamment plateau urbain. Il y a quand même quelque chose d'une prise de relais d'une partie de la société qui tout à coup n'était pas destinée et désignée pour parler des questions de pauvreté et des questions de résolution de la pauvreté dans des formes du quotidien. En France, on a quand même une culture du dispositif de la puissance publique qui vient du haut, qui tombe, qui se déroule et qui doit répondre et qui devrait répondre à tout le monde, ce qui est une très bonne chose. Enfin, je veux dire, on ne peut pas remettre ça en cause. En revanche, quand il s'étiole, quand il s'effrite, quand le diagnostic qui produit de la puissance publique est à côté de la plaque de la réalité du terrain, de ce qui se passe dans le réel, eh bien, il y a une force, une capacité citoyenne à résoudre des problématiques du quotidien qui est quand même extrêmement vive et présente en France. Pendant la crise sanitaire, la Fondation Abbé Pierre a soutenu beaucoup de jeunes associations, de collectifs d'habitants dans les quartiers populaires et ailleurs qui ont décidé de se prendre en main sur de la question de tenir le filet de sécurité, les besoins de première nécessité des gens qui avaient autour d'eux. Alors c'était autour d'eux, c'était pas en dimension nationale ou départementale, mais c'est un élan et c'est une inventivité citoyenne qu'à mon avis, de mon point de vue, il faut rejouer avec le travail social. Je pense que le travail social doit renouer avec cette forme d'action sociale. C'est pour ça que je le relie à ça. La deuxième chose, et je pense, c'est la question des moyens. Comment aujourd'hui on peut envisager de financer le travail social de façon aussi peu adaptée par rapport à la violence et à l'intensité des professionnels de terrain qui sont face à des précarités qui se démultiplient, des publics qui changent, des publics auxquels on ne peut même plus rien proposer, pour lesquels il n'y a plus de proposition possible. Comment on peut envisager un projet de société qui met au front des plus grandes violences sociales des populations entières, qui parfois elles-mêmes sont en situation sociale complexe et parfois difficile, et ne pas envisager de corriger ça. Donc il y a quelque chose du côté de l'interpellation et d'assumer ça et de le porter comme étant légitime et normal de bien prendre en compte la nécessité, alors rémunération, mais je crois qu'il y a les moyens aussi. Je crois qu'il y a les moyens au sens des moyens de la prise de recul de cette violence-là du quotidien. Le travail social, c'est dur, c'est difficile. Et donc, ça nécessite les moyens de faire le pas de côté systématique et nécessaire qu'il faut faire pour pouvoir tenir. Sinon, il se passe ce qui se passe actuellement, c'est la désertion des écoles du travail social, c'est la désertion des postes, avec un taux de vacances dans les associations et dans le service public, la polyvalence de secteur pour commencer, les départements, qui est effrayant. Il n'y a plus de travailleurs sociaux pour venir répondre aux questions de précarité, de lien social, d'accompagnement, d'enfance, de PMI, et j'ai pas tous les déroulés parce qu'on y resterait toute la nuit, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de disparaître et qui est extrêmement dangereux. Donc les moyens, c'est aussi le nombre, voilà, c'est aussi la qualification, c'est aussi ce que vous disiez, la formation. Et puis en dernier lieu, il me semble, pour revenir à la question des tiers-lieux, c'est que le changement que propose le travail social, c'est un changement à bas bruit. C'est un changement du petit-petit. C'est un changement qui ne rentre pas dans les mesures d'impact et les tableaux de bord, machin truc, de l'entrepreneuriat et économie sociale et solidaire à certains endroits. Et ce changement à bas bruit, c'est la qualité sociétale, c'est la qualité des démocraties, c'est la qualité de la manière dont on veut vivre avec son pays, dans son pays, dans lequel on doit pouvoir s'exprimer et on doit pouvoir rêver et se projeter. Cette partie-là de changement à bas bruit, il y a quelque chose pour les organisations de la question de l'action sociale et du travail social sur lequel on doit travailler en termes, y compris de communication, de donner à voir, de réexpliquer. En fait, quand on aide à grandir un enfant, quand on accompagne une personne qui est en situation de pathologie ou qui est en train de vieillir, tout ce qu'on fait au quotidien avec, c'est du bas bruit. C'est du geste quotidien. Personne va vous dire, à chaque fois que vous avez fait prendre le bain à votre bébé, va vous faire la hola quand vous allez sortir le bébé du bain. Et pourtant, vous lui avez donné la possibilité à vous et à lui d'avoir un moment privilégié qui construit de l'humanité et qui construit de l'humain. Et ben, le travail social, pour moi, c'est pareil. C'est ce changement à bas bruit qui est capital et qui change fondamentalement la vie d'individus, qu'ils soient du côté de la précarité ou qu'ils soient du côté du travail social.
Ça mériterait une éola, objectivement.
Merci, un grand merci pour cette première étape de mise en perspective. Donc je suis un peu gardien du temps, donc on va passer à la seconde étape et on va focusser sur les 5 toits, donc le projet des 5 toits. Donc je vais inviter, merci, donc on retrouve Frédéric sur le troisième temps. Florian doit partir pour un conseil d'administration, malheureusement. Et donc je vous invite, donc on invite les deux chercheuses qui ont travaillé sur les 5 toits. Donc je vais présenter en premier lieu Géraldine Béchera, qui était chef de service aux 5 toits sur toute la durée des 5 toits. Et je tiens à dire que Géraldine a aussi eu la tâche peu enviable d'assurer la fermeture des grands voisins, qui a été son premier poste chez Aurore, ce qui n'est pas les moments les plus, on en parlera sûrement, mais ce n'est pas les moments les plus sympas de nos tiers-lieux temporaires. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à recevoir Isabelle Galvao et Elona Hoover, qui on a commencé à travailler ensemble aux grands voisins et qui ont beaucoup travaillé aux 5 toits. Et je passe la main à Adrien de Plateau Urbain.
Merci. Bonjour à toutes et tous. J'attends juste que ça s'allume bien derrière. Nickel. Merci William pour cette petite introduction. Donc on est ravis d'être là. Moi je m'appelle Adrien Monan, je suis responsable de projet évaluation pour la coopérative Plateau Urbain et je suis en charge d'animer du coup la prochaine demi-heure aux côtés donc de Elona Hoover, docteur en géographie sociale et chercheuse indépendante, de Isabelle Galvao, tu es donc maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Paris 8, et Géraldine Béchera, donc ex-chef de service d'un centre d'hébergement aux 5 toits. Et l'idée de ce temps, ça va être de présenter donc cette étude évaluative que vous avez menée sur le projet des 5 toits. Vous avez donc le livrable qui est disponible et que vous pouvez consulter en même temps. Petit mot rapide juste avant de vous donner la parole pour présenter un peu le projet. C'était important pour compléter ce que tu disais, William, pour nous, coopérative Plateau Urbain, de voir en fait ce type de travail aboutir. On développe nous depuis quelques années avec Plateau Urbain et notamment au travers d'un projet qui s'appelle Commune Mesure, avec un comité de pilotage dont plusieurs de nos partenaires sont ici ce soir. Donc merci. On développe vraiment un plaidoyer en faveur de l'évaluation au service des projets. Et de voir en fait aujourd'hui ce type d'études aboutir, ça montre bien qu'on peut avoir une évaluation collective apprenante au service des projets. Et quand je dis au service des projets, c'est au service de leur amélioration, de leur pilotage, de leur valorisation et potentiellement de leur essaimage. Et dans un contexte où, comme on l'a dit, on l'a bien entendu dans la première table ronde, où c'est compliqué de développer ce type de lieu, dans un contexte où on nous demande de plus en plus de preuves sur les effets un peu générés de ces projets-là, on est ravis de pouvoir voir qu'on arrive aujourd'hui, avec ce travail d'analyse que vous avez mené et que vous allez nous présenter, à 18 indicateurs très aboutis qui, je pense, on pourra nous réutiliser dans le cadre de futures évaluations et qui sont vraiment très très riches et montrent bien qu'on peut se servir de l'évaluation comme un outil au service des projets. Voilà, je vais vous laisser la main. D'abord, Géraldine, peut-être juste pour une petite mise en contexte quand même sur le projet des 5 toits. L'idée, c'était de vous rappeler un petit peu en quelques minutes ce qu'ont été les 5 toits. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet pour vous présenter, vous nous présenterez les résultats de votre étude.
Bonsoir, ça marche ? Du coup, pour revenir sur les 5 toits, donc les 5 toits, c'est un projet d'occupation temporaire qui a ouvert en septembre 2018. Donc Aurore a récupéré les clés en fait d'une ancienne caserne de gendarmes mis à disposition par Paris Habitat. Initialement 2 ans et puis finalement ça s'est un petit peu étiré dans le temps et ça a duré au final 4 années. La caserne permettait en fait d'ouvrir 3 centres d'hébergement, donc un centre d'hébergement d'urgence pour accueillir 100 places familles, un hébergement d'urgence de vendeurs d'asile de 150 places au isolé et un CPH centre provisoire d'hébergement, 200 places hommes isolés. En fait, il faut imaginer que c'est une caserne, on verra un plan tout à l'heure, avec une cour et des bâtiments autour. Et du coup, c'est des anciens appartements des familles de gendarmes, donc ce qui se prêtait bien à l'hébergement pour des colocations, les colocations de familles et d'hommes isolés. Donc chaque centre a son équipe sociale, son chef de service. Voilà pour la partie, donc ça représente un des publics. En marge de ça, donc ça occupait plutôt les étages des bâtiments et les rez-de-chaussée étaient occupés du coup par les bureaux des services, mais également a permis de louer des espaces à des artistes, artisans et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, la partie pilotée par Plateau Urbain. Donc Aurore avait déjà travaillé avec Plateau Urbain sur Les Grands Voisins. Et ça représentait une trentaine, je pense 38 structures partenaires. Donc les critères, je ne vais pas tous les dire, mais voilà, pour comment on a, les structures ont été choisies, c'était aussi sur la volonté de s'impliquer sur le projet collectif. Et aussi, entre autres, hein, sur l'ancrage local, l'ancrage territorial. Et dès le début, il y avait aussi la vocation, enfin la volonté d'ouvrir au grand public. On est dans le 16e arrondissement de Paris. Donc il y avait aussi un enjeu de... c'était un peu... Alors c'était pas nouveau, il y avait eu précédemment un centre d'hébergement qui avait ouvert aussi dans le 16e, dans le bois de Boulogne. Mais il y avait aussi cette voilà de volonté d'ouvrir au public pour aussi sensibiliser... Ouh là là. Sensibiliser aux questions de, aux questions, enfin, au travail social et aux questions aussi de, sur, de, d'exil, quoi, de public exilé. Donc très vite, il y a eu, enfin, non, très vite. Il y a eu donc la volonté d'ouvrir, c'est passé par plusieurs dispositifs, notamment, donc, il y a eu l'ouverture d'un, d'un restaurant, la Table du Réchaud. Il y a eu le pôle vélo qui était géré par Aurore mais en partenariat avec d'autres acteurs du cycle. Il y a eu tout un pôle d'agriculture urbaine, notamment aussi après avec l'arrivée de la conciergerie solidaire et l'ouverture d'un compost pour le quartier. Et puis il y a eu la Bricole, je pense qu'on en reparlera aussi, qui est un lieu un peu emblématique, mais qui s'est une structure voilà qui s'est construite avec les résidents en chantier participatif. Voilà, donc ça fait. L'idée de, des cinq toits, c'était de permettre la rencontre entre ces différents publics avec différents usages. Donc un peu dans la lignée des grands voisins, avec je pense une différence notable. Au cinq toits, ça a vraiment été resserré autour du travail social, puisque les cinq toits étaient quand même un lieu de vie avant tout, sur un espace qui est assez contraint, avec 350 personnes hébergées sur place. Donc avec une dimension, on va dire, moins festive, mais avec d'autres formats de rencontres proposées.
Voilà. Merci beaucoup. Du coup, pour revenir un petit peu sur cette étude, après donc cette superbe introduction, donc on voit que c'est quand même un projet mixte, hybride, pas forcément facile à évaluer. Donc la première question pour vous, c'était comment vous êtes pris, en fait, concrètement. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre démarche d'évaluation, comment vous avez fait concrètement pour évaluer ce projet et aboutir à cette étude.
Bonsoir à toutes et tous. Donc juste rapidement et je passe la main à Ilona. Donc moi je suis Isabelle et là quand on a eu l'opportunité de faire cette étude. Toutes les deux, on était déjà familiarisées avec les tiers-lieux solidaires vu la connaissance des grands voisins au préalable. De mon côté, je venais avec une expérience de recherche action collaborative dans le champ du travail social, de l'intervention sociale. Donc, pour moi, c'était évident que faire un travail d'évaluation de ce type d'endroit, il fallait bien se distancier d'une vision d'évaluation comme contrôle, mais de s'approcher d'une évaluation qui serve aux personnes et qui aux acteurs du projet, ce qui était bien la demande d'Aurore et Plateau Urbain. Et c'est là qu'on s'est associé avec Ilona, qu'elle venait avec une expérience d'évaluation déjà dans d'autres associations et qu'on a construit la démarche qu'elle va nous raconter. Tout de suite.
Bonsoir. Donc là, on a une petite slide derrière nous pour montrer, décrire un peu les éléments pour accompagner mon discours. Donc, on a, comme a dit Isabelle, on a vraiment voulu travailler avec l'équipe des 5 toits et on a vraiment remercié aussi la coordination du projet pour le travail qu'on a mené ensemble parce que ça a rendu possible. En fait, il y avait déjà, on voulait s'appuyer aussi sur cette force déjà présente de se remettre en question et d'avoir pas mal de choses déjà en place pour avoir une réflexion constante en fait sur ces pratiques. Donc ça, c'était important à mentionner. Et donc on a identifié ensemble deux choses qui semblaient importantes à faire ressortir dans ce processus d'évaluation, donc comment on allait le construire. Une des choses, c'était la volonté d'avoir une trame, d'avoir donc ce que nous on a appelé une grille d'évaluation et des indicateurs. Des indicateurs, donc c'est des effets souhaités, les effets qu'on souhaite que le projet ait et dans divers éléments. Et donc ça c'est une des volontés. Donc on s'est dit bon, on va essayer de travailler sur ça, d'essayer de construire une grille, une trame. Et le deuxième élément, c'était aussi de valoriser justement tout ce travail qui avait été fait, parce qu'on est arrivé nous sur la troisième année déjà du projet. Donc on n'est pas arrivé au début du projet. Donc c'était une volonté de valoriser toute la documentation, tout le travail qui avait été fait de réflexion au long du projet dans ce processus aussi d'évaluation. Et donc on a fait ça en deux étapes. On a fait la première étape qui était trois ateliers collectifs. Donc ensemble, on a, avec la coordination du projet, on a identifié un groupe d'à peu près 10 personnes. Avec des personnes qui pouvaient changer, mais un peu représentatives des différents acteurs que Géraldine a mentionné. Et on a fait trois ateliers au cours de 4 mois, on va dire, pour justement identifier les priorités, les effets souhaités et développer cette grille d'indicateurs. Donc, comme vous voyez en bas, juste pour vous donner une petite idée, on a commencé en juin 2022 avec 39 indicateurs, c'est passé à 61 au deuxième atelier, puis 24, et puis finalement avec ensuite la deuxième étape, on est redescendu à 18. Donc c'était un vrai travail d'échange et de synthèse et de retravail, on sent. Et donc la deuxième étape qui était justement de tester cette grille, dans la pratique, en allant rencontrer les personnes, en étant présente sur le site, en faisant des entretiens avec différentes personnes, notamment aussi avec les personnes hébergées qui n'avaient pas pu assister à ces ateliers. Donc c'était vraiment une deuxième partie importante de ce travail qui était à la fois de tester la grille et aussi d'évaluer les éléments qui étaient dedans. Voilà.
Tout ce processus itératif, en fin de compte, qui a mis quand même un an, enfin, et pour aboutir a fini par aboutir, du coup, à 18 indicateurs. Et l'idée, là, c'était un peu de vous les présenter, dans un premier temps, de manière un petit peu globale. Et puis après, on va rentrer, on n'a pas énormément de temps, on va pas pouvoir rentrer en détail dans tous les indicateurs, mais l'idée, c'était de pouvoir en focus un peu sur certains. Donc peut-être juste pour reclarifier un petit peu ce que c'est. Vous avez aussi ce schéma dans le livrable qui vous a été donné à l'entrée. C'est que vous êtes reparti donc de ces deux objectifs du projet, que sont donc inclusion sociale et insertion professionnelle, et le deuxième objectif, l'ouverture sur la ville. Sur ces deux objectifs, donc on voit qu'on a plusieurs clusters un peu d'indicateurs ou d'effets attendus. Hein, donc c'est vraiment une volonté initialement dans le projet de se dire bah on a envie que le projet ait un effet, on ne parle pas forcément d'impact, sur le bien-être, l'accompagnement, le respect. Et ces 18 indicateurs qui sont là, ce qui est intéressant, c'est que donc, vous avez mené votre processus d'évaluation qui a abouti à un triptyque un peu de notation avec des indicateurs géniaux, donc on va pouvoir revenir un peu sur cela, qui correspondent un peu aux grandes réussites du projet, des indicateurs que vous avez qualifiés plutôt de bien, Et puis des indicateurs passables, donc on verra un peu ça peut-être en dernière question, qui sont peut-être un peu les enjeux, les suites, les perspectives, un peu les choses qu'on a améliorées. Voilà pour le panorama global. Je vais vous redonner la parole peut-être avec une première question. On voit en haut à gauche la source cluster rencontre beaucoup de plus. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que ça a été un peu une des réussites phares de ce projet-là, des 5 toits, de favoriser la rencontre et le bien-être entre les différentes résidents, habitants, les différentes parties prenantes du projet?
Alors, la rencontre, peut-être déjà juste, tu as dit, mais renforcer l'idée que les clusters, ce n'était pas un a priori. En fait, c'est dans ce mouvement permanent de revenir dessus, les indicateurs, qu'on identifiait des similitudes, qu'on les associait pour donner plus de lisibilité, plus de clarté. Et c'est vrai que la question des rencontres était déjà posée comme une importante dès le départ du projet, mais qui est ressortie d'une façon très forte à la fois dans les ateliers et dans toute la documentation et entretien qu'on a réalisé. Et qui est un lien, donc qui ressort du lien entre toute une pléthore d'espaces et d'activités qui sont proposées dans le projet. Donc là, on voit sur le plan différents espaces. Pour certains, des espaces qui sont ouverts à tout public, d'autres espaces qui sont réservés aux personnes hébergées, aux acteurs du projet. Et donc des espaces qui induisent aussi des usages et des espaces plus ouverts où les usages sont multiples, mais qui permettent les rencontres des personnes qui peut-être ne se rencontreraient pas autrement, des activités et des activités également qui peuvent être des activités plus régulières, toutes simples comme par exemple le petit déjeuner sous le porche d'entrée une fois par semaine, ou des activités qui touchent des événements plus grandioses, c'est un gros mot, mais plus festifs, ouverts au quartier, ou plutôt des événements festifs pour les résidents et les personnes qui habitent les sites. Donc, aussi dans les activités, donc les événements, les choses régulières, des choses très informelles aussi qui sont plus liées à l'espace comme activité. Donc un exemple qui est très éloquent, c'est le baby-foot sur la cour, qui n'exigeait pas grand-chose d'autre que d'y aller et qui était vraiment un espace de rencontre où à chaque fois qu'on passait, et les gens nous le disaient beaucoup, on voyait des résidents qui jouaient avec un travailleur social, avec un service civique, parfois entre enfants, adultes, parfois des habitants moins fréquents, mais il paraît qu'il y en avait également. Et dans cette multiplicité d'activités, aussi quelque chose qui nous a attiré l'attention, qui apparaît, c'est des activités de fabrication, donc des ateliers, des chantiers participatifs, et des activités qui avaient lieu dans des pôles d'activités, notamment la bricole, qui étaient ces ateliers partagés, qui permettaient à travers, avec la médiation d'une matière, d'un projet de fabrication, la rencontre des personnes qui étaient très porteuses. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui collaborait, contribuait beaucoup à l'accompagnement social. Et aussi, dans le cluster, on a identifié quelque chose, ça rend visible aussi une dimension qui a été identifiée aussi dans le processus d'évaluation, que c'est l'importance donnée au bien-être à la fois des personnes hébergées, mais pas que, aussi les occupants, aussi les travailleurs sociaux, donc l'attention à un climat qui soit favorable à la rencontre et en l'occurrence à l'accompagnement social. Et peut-être juste aussi en ce qui concerne les événements, ce qu'on a noté, c'est que même les événements ouverts au public, ils existaient, ils étaient là, mais ils étaient par exemple moins nombreux si on compare à ce qu'il y avait aux grands voisins. Et comme ce qu'on a noté également en lien avec ça, c'est que le sentiment d'intrusion qu'on a pu noter aux grands voisins du lieu des travailleurs sociaux et des personnes hébergées, c'est pas quelque chose qu'on a noté aux 5 toits. Ce sentiment d'être envahi par des personnes, au moins c'est pas quelque chose qui a été saillant dans ce qu'on a pu obtenir. Je ne sais pas si...
Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur... Bah, peut-être, alors, merci beaucoup pour... Est-ce que je passe le micro ? Voici. Pour cette première intervention sur ce cluster rencontre, peut-être sur le deuxième objectif, ça m'avait un peu interpellé, moi, quand j'avais regardé, quand on avait eu des premiers échanges avec vous, cette notion un peu d'inscription dans le territoire, qui est quand même une notion clé, généralement, pour les tiers-lieux ou les projets d'urbanisme transitoire. Il y a quand même généralement une vocation affichée assez claire d'ancrage territorial, de s'inscrire dans son quartier, dans son territoire et de pas être déconnecté de ça. Donc la question un peu simple, parce que je vois qu'il y a deux indicateurs là-dessus, un indicateur plutôt sur l'inscription dans le territoire des riverains et un plutôt sur les enfants. Comment, en fait, l'inscription dans le territoire de ces deux acteurs, elle a pu avoir une influence sur le projet? Et si on fait un peu le lien avec la table ronde et le sujet d'aujourd'hui, notamment en lien avec le travail social, comment ça a pu... Qu'est-ce que vous avez pu mettre un peu en avant dans votre étude sur ce sujet-là?
Alors oui, un des éléments qui est ressorti dans l'étude, c'était déjà vu le contexte que Géraldine a mentionné, le fait que le projet était déjà dans un arrondissement et un territoire, on va dire, qui était a priori plutôt hostile, on va dire, au projet. Et donc il y avait un potentiellement aussi par rapport à l'effet sur le travail social qui était fait dans les lieux, il y avait aussi une attention vraiment à ce que le fait d'avoir ce projet dans ce territoire pouvait aussi indirectement influencer le bien-être justement l'énergie du quartier et comment ça pouvait se ressentir chez les personnes hébergées aussi. Et une des choses qui est vraiment ressortie, ça du coup c'était une surprise, c'est vraiment ressorti par ce travail d'évaluation et le développement des indicateurs, c'était l'importance de la présence des enfants. Et c'est ressorti à la fois, il y a un indicateur on peut voir sur l'inclusion sociale aussi, en lien avec les femmes et les enfants, mais aussi ça apparaissait fortement sur le lien avec les territoires. Et c'était une vraie manière de... pour les activités qui étaient en lien avec les familles hébergées, les enfants, il y avait a priori, de toute façon, une connexion avec les écoles, avec les crèches locales qui créaient du lien. Le carnaval était organisé aux 5 toits en lien avec les écoles du quartier. Donc ça a vraiment, dès le départ, créé une dynamique. Et puis ça aussi, au fil... En fait, on a fait une analyse aussi de comment le projet était perçu par les médias au fil des années et accompagnant ce changement de vision du projet, il y a vraiment aussi cette prise de place aussi du rôle des enfants dans le projet. Il y a aussi par exemple les bénévoles du quartier, les bénévoles dont à peu près 50% étaient aussi du quartier, une partie de ces personnes-là étaient participaient au soutien scolaire aussi. Donc c'était aussi une importante raison de s'impliquer pour les riverains, d'apporter ce bénévolat par le soutien scolaire. Et puis c'était aussi, ça participait à cette acceptation du projet par rapport au fait aussi que le futur projet allait avoir une crèche PMI et aussi pension de famille, il me semble. Voilà, donc c'était aussi la possibilité d'entrevoir le futur du lieu à travers aussi cette présence. Donc ça, c'était pour le lien au territoire, c'est quelque chose, voilà, vous voyez les deux plus. Voilà, qui était en contraste un peu, on va dire, avec les difficultés qu'il pouvait y avoir dans ce lieu précis, et aussi les tensions qu'il pouvait avoir avec des bénévoles qui venaient sur le site de manière bienveillante, mais sans nécessairement comprendre les difficultés justement dont on a mentionné du travail social, ou les difficultés que pouvaient poser leur proposition bienveillante, voilà, qui pouvait être en contraste avec l'accompagnement autrement. Mais voilà, c'était cette présence de joie aussi et d'une voilà d'une ouverture qui participe de cette pratique relationnelle du travail social. Voilà.
Merci beaucoup. Peut-être pour rebondir, on a dit au début, et c'est William, tu disais ça, que l'évaluation, elle avait aussi pour but de, enfin, à la fois de mettre en avant les réussites du projet, mais également de montrer peut-être les axes d'amélioration, voir un peu comment on pouvait dépasser certaines limites. Donc, ma question est très simple. On a parlé pas mal des réussites. On voit aussi, on n'a pas le temps forcément de tout aborder ce soir, mais qu'il y a pas mal aussi donc de plus sur le respect, sur la culture, sur le développement des compétences. Enfin, on pourrait citer plein de choses. Et je vous invite vraiment à lire l'étude et à regarder le bilan pour en savoir un peu plus. Mais ma question du coup, c'est est-ce que il y a aussi des résultats un peu plus mitigés dans votre étude, peut-être des choses, des effets attendus qui ont peut-être pas été au rendez-vous, et des choses que vous souhaiteriez un peu mentionner, que vous avez pu identifier dans votre étude là-dessus.
Peut-être on peut identifier là pour ce point les deux. Il y a deux points là qui sont plus mitigés. Par exemple, la compréhension. Les structures partenaires et bénévoles comprennent les enjeux du travail social. Et il y a un autre concernant les discriminations, qui les acteurs du site luttent contre les discriminations. Et, je ne sais plus, je ne me rappelle plus comment on l'avait dit entier. La lutte contre les discriminations, en fait, qui c'était des effets souhaités et attendus. Et pour ces deux, les résultats, on va dire, étaient un peu plus mitigés. Je trouve intéressant de les aborder, surtout parce que ça fait lien avec la table ronde avant, dans le sens que de voir aussi que le travail social est inscrit dans des enjeux sociétaux qui dépassent aussi un dispositif en particulier. Donc la question des discriminations, c'est-à-dire qu'il y avait un sentiment qu'il y avait des actions, il y avait une attention à lutter contre les discriminations de toutes sortes. D'ailleurs, la création d'une salle propre aux femmes et aux enfants illustrait ces initiatives importantes, mais il y avait un sentiment qu'on n'allait pas aussi loin parce qu'il y avait quand même, on constatait des situations de discrimination entre résidents ou entre parfois bénévoles ou entre voilà, des choses qui échappaient à ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est dans ces sentiments d'insuffisance, c'est de rendre compte aussi que le projet, il est inscrit dans une société très inégale et que du coup, les discriminations sont une donnée sociétale, c'est-à-dire que toute l'énergie que ça exige et qu'il faut tenir justement pour à l'intérieur faire en sorte de ne pas les reproduire. Donc voilà, là, il y avait un sentiment de... On aurait pu aller un peu plus loin dans les... plaidoyer dans la vigilance, etc. Et concernant les compréhensions des enjeux du travail social aussi, c'est-à-dire qu'on a relevé beaucoup de situations, de propos concernant des situations de malentendus, de maladresses, soit de malentendus concernant ce que c'est le travail social de la part de personnes, soit bénévoles, soit occupantes, et qui parfois pouvaient, du lieu de personnes travailleuse sociale, braquer un peu, inhiber certaines collaborations parce que c'est bon, là il y a une maladresse, il y avait une certaine lassitude parfois qui ressortait. Et donc pour moi, l'évaluation a tenu compte de ça en disant que il y avait en même temps une envie de la part, si on tient compte des structures occupantes, il y avait une envie quand même de connaître les pratiques, et il avait une reconnaissance qu'il y avait un effort fait dans une sorte de pédagogie pour expliquer, par exemple, les journées portes ouvertes des centres d'hébergement comme quelque chose de très utile et important, mais peut-être un sentiment que aussi on aurait pu aller un peu plus loin. Voilà. Donc c'est juste pour le mitiger, c'est il y avait mais pas assez, et du coup il fallait renforcer ça.
Super, merci. Je vois que le temps file un peu, donc on va arriver à la dernière question. Pour ouvrir peut-être aussi sur la table ronde d'après, vous mettez un peu en avant, là on le voit sur la dimension ville de demain et l'indicateur expérimentation, le fait que la nature transitoire et hybride du site a créé une ouverture à l'expérimentation. Je trouvais intéressant un peu de vous questionner là-dessus. On est ici même dans un lieu transitoire qui a une forte vocation expérimentale. Je pense que c'est le cas de beaucoup de nos lieux. Donc concrètement, au 5 toits, et je m'adresse aussi à toi, Géraldine, je pense que vous pouvez faire une réponse à trois voix pour conclure. Concrètement, qu'est-ce que c'est que cet indicateur, qu'est-ce qu'il veut dire, et qu'est-ce qu'on a pu concrètement expérimenter au 5 toits?
Alors je vais commencer plutôt avec la dimension transitoire. Donc on sait que ça apporte de l'énergie, des nouvelles formes de faire. Aussi, on mentionnait dans l'innovation les manières d'être moins contraint peut-être par des certaines règles. Mais une chose, et aussi que les erreurs sont possibles. Mais une chose qui est ressortie, je vais juste dire ça, une chose qui est vraiment ressortie, c'est pas par rapport à l'impact sur le travail social, c'était bien sûr le transitoire, mais surtout le fait que les échéances soient constamment repoussées. En fait, ça, c'était plus fatigant et plus éprouvant pour les équipes sociales que la nature transitoire elle-même. Voilà.
Effectivement, je pense que le transitoire, en fait, ça permet à des projets de se monter, mais c'est pas une finalité. Enfin, je pense pas que ce soit une finalité en soi, puisque la nature, enfin, le travail qu'on fait, en tout cas le travail social, on a besoin aussi de stabilité, de se projeter. Et typiquement sur les fermetures, je pense qu'au 5 toits, il y a eu au moins 3-4 reports de fermetures, je sais plus exactement. Et c'est très inconfortable et pour les personnes hébergées et pour les équipes qui sont sur place. Ça crée un peu des effets de... On sait que c'est compliqué, c'est des moments qui sont très anxiogènes. On a envie d'anticiper et on se retrouve à ne pas pouvoir le faire parce que finalement, c'est reprolongé, ça reprend. Donc c'est aussi une question d'énergie. Les fermetures, c'est même s'il y a l'engagement de remettre personne à la rue, en fait, c'est... Il s'agit de reloger toutes les personnes qui sont sur le site. Les places d'hébergement, les places de logement, c'est pas forcément dans nos mains. Donc c'est un travail très complexe et surtout faut pouvoir accompagner les personnes qui se sont justement plus ou moins ancrées sur le lieu, puisque c'est un peu le but, hein, d'offrir aussi un espace de bien-être et de rencontre. Et que ça se fait pas non plus sans casse, mine de rien. On a un public qui est très fragilisé. Moi j'étais sur le CPH, on a des personnes qui arrivent au CPH qui ont déjà fait 5, 6, 7 lieux d'hébergement avant et qui se retrouvent avec une nouvelle rupture, même s'ils vont ailleurs, mais ça s'inscrit aussi psychiquement, donc ça c'est compliqué. Donc il y a cette notion de durée, il y a aussi l'énergie qu'on y met, en fait. Une ouverture, c'est beaucoup d'énergie pour créer les outils, pour créer le cadre, pour se familiariser avec l'environnement, mais aussi avec les autres acteurs. Ce que tu évoquais tout à l'heure, voilà, il y a plusieurs cultures professionnelles différentes sur le site. Ça prend du temps, en fait, de travailler ensemble, de se comprendre. Et sur des durées courtes, en fait, on a 4 ans, ça paraît long, mais en fait, ça a demandé beaucoup de temps, d'énergie, de réunions. Ça sollicite beaucoup aussi. On parlait du travail social. C'est une autre manière de travailler aussi pour les travailleurs sociaux. Et entre les missions premières qui nous sont les urgences sociales et on leur demande de s'impliquer sur le projet, de penser différemment, et ça prend du temps. Et sur du transitoire, en fait, on ferait la même chose sur du pérenne, ça serait peut-être moins frustrant. Je pensais à des choses peut-être plus techniques, mais le transitoire, c'est souvent aussi on récupère des bâtiments qui sont pas toujours en bon état, ou en tout cas, voilà, faut doser entre comment on investit, comment on peut quand même bien accueillir les gens dignement quand on a des bâtiments qui se dégradent, quels travaux on fait. Et en fait, c'est des vrais choix quotidiens, enfin, c'est des vraies questions quotidiennes dans l'accompagnement des personnes accueillies. Et après, sur le côté, c'est un peu les limites, je dirais, du transitoire. Mais je pense que ce qui peut être intéressant dans le transitoire, c'est quand, comme là, au 5 toits, c'était une mise à disposition gracieuse. Enfin, je pense qu'il y a cette nécessité aussi qu'on puisse bénéficier de ces locaux. Là, c'était du coup à titre gratuit. Ça permet aussi de redéployer de l'énergie et de l'argent ailleurs. Et là, ça devient intéressant du coup d'investir, mais sur une durée suffisamment longue.
Tu peux conclure ? Oui, voilà, dans la suite de Géraldine, peut-être... renforcer, reprendre un peu la notion de
cette dimension hybride du lieu, le fait justement d'avoir un site qui mélange des usages et des types de personnes qui sont là pour différentes raisons, et qui, par sa disposition et par ce qui est proposé, met la rencontre au centre, bah, je pense que c'est vraiment un vivier d'expérimentation très intéressante pour le travail social, parce que ça, cette mise en avant de la rencontre dans ce type de lieu met à l'épreuve certains fondamentaux des pratiques qui, donc, par exemple, la question met de l'horizontalité où souvent on a beaucoup de verticalité dans une relation entre un sachant et une personne qui doit être aidée. Le fait de possibilité des rencontres en dehors de l'espace du bureau peut mettre de la proximité dans une relation où souvent la question de la distance est quelque, la distance professionnelle est quelque chose de très ancré. Et aussi ce tissage des liens avec d'autres personnes, ça ouvre, ça mélange des expertises, ce qui peut être très intéressant aussi. Mais ces changements-là, qui touchent des fondamentaux d'une maîtrise, d'une expertise, d'une distance et d'une certaine verticalité, ça mérite d'être accompagné, parce que ça peut être saisi d'une façon très avenante et profitable, mais ça peut mettre en question d'une façon un peu difficile à gérer. Donc la dimension d'accompagnement d'équipe, de réflexion, de prise en compte de conflits, des tensions est très importante, d'où l'importance du travail en équipe, etc. Mais cela me semble quelque chose qui est complètement transférable et valide pour penser d'autres pratiques. Donc, par exemple, quand j'entendais Frédéric parler de faire ensemble, où c'était fait d'écran, je trouve qu'il y a là un petit laboratoire de quelque chose qui peut être intéressante. Et c'est clair que cette mise à l'épreuve des pratiques dans un contexte où l'identité professionnelle est un peu menacée parce qu'il y a un manque de reconnaissance à la fois sociale, valeur et aussi salariale et travers sociaux, ça peut être mal vécu parce qu'il y a une certaine susceptibilité parfois justement d'ouvrir et de penser autrement que les représentations plus établies des pratiques. Voilà.
Merci beaucoup. William, je te redonne la main pour la suite du temps. Merci.
Merci beaucoup. On va aborder le troisième et dernier temps. J'espère que vous notez vos... On aura un petit temps d'échange ensuite. Donc notez vos questions brûlantes pour la fin. Ou alors pour l'apéro, on aura un petit temps au bar aussi, bien sûr. Donc après, on a eu un premier temps sur la mise en contexte du travail social. On a fait un gros focus sur les 5 toits, l'expérience dans le 16e arrondissement. Et là, on va vraiment partir sur une approche plus large des tiers-lieux solidaires. À quoi servent ces lieux? Qu'est-ce qu'ils apportent? Et donc, on a autour de la table, donc on a la chance d'avoir une délégation lyonnaise. Donc, quand on parle d'essaimage, c'est chouette de voir ces expériences reproduites par d'autres structures, d'autres associations. Donc, on va avoir un petit retour sur les grandes voisines, qui est dans une autre temporalité, et de voir un peu ce qui en ressort. On a ici Chloé Monin et Charlotte de Ruet. Des grandes voisines. On va pouvoir faire un petit focus sur la thématique de l'exil avec Noémie, qui est docteur en sociologie à l'Université de Nanterre, maîtresse de conférences et directrice de formation à l'Institut catholique de Paris. Et on retrouve Frédéric, que je ne représente pas. Donc pour commencer, peut-être... Moi, je commencerai bien par les grandes voisines, si ça vous va, histoire d'avoir une expérience terrain.
Bonjour à tous. En fait, il nous manque une troisième personne sur la table ronde, qui serait Plateau Urbain, puisqu'on est trois structures à gérer les grandes voisines. Et on parle au nom du site, à ce moment-là. Donc très très rapidement, qu'est-ce que c'est les grandes voisines? Ben, ça ressemble beaucoup aux 5 toits, c'est de l'hébergement. On a 5 centres d'hébergement, donc 475 personnes hébergées, dont 40% d'enfants, 190 enfants sont hébergés sur ce site. C'est peut-être un peu plus grand, il y a 8 hectares et 22 000 mètres carrés de bâti, donc c'est assez grand. On a des salariés en insertion, on a 90 salariés en insertion, donc on a plusieurs activités, on a de la couture, on a du nettoyage, de la logistique, une blanchisserie, une épicerie sociale. On a 40 porteurs de projets qui louent des locaux aussi, donc avec grosso modo un tiers d'artisans, un tiers d'artistes, un tiers de l'économie sociale et solidaire. Et puis, bah, pareil, on a des lieux ouverts au public avec un hôtel, un restaurant, un pôle de santé pluridisciplinaire, donc avec à la fois du soin et de la prévention, promotion de la santé. On a une ludothèque, on a des jardins partagés, on a une bricolade. Et puis, on a également, pour favoriser la mixité, une grosse programmation culturelle avec environ 3000 personnes là, qui sont venues cette année voir des spectacles. Et on fait donc des spectacles, de la programmation classique, de la médiation culturelle beaucoup, et puis également des résidences. Ça nous permet d'avoir des spectacles gratuits, parce qu'on leur prête les locaux et après, ils viennent, ils font leur sortie de résidence. Donc voilà, très rapidement, ce qu'est les grandes voisines. Ça fait 3 ans qu'on est là et on a encore 3 ans devant nous.
Donc c'est pour nous une chance de partager ce moment-là avec vous et toutes les équipes qu'on part d'autres tiers-lieux, et notamment sur ce bilan en fait des 5 toits, parce que c'est un lieu qui nous a inspirés, qui nous parle, où on a pas mal de similitudes. Nous, ça fait 3 ans qu'on existe. On n'a pas encore de données objectives. On est en train de réaliser une mesure d'impact, plutôt sur le lien avec le territoire. On a une doctorante aussi qui est en train d'étudier justement les effets sur le travail social, en fait, de ces tiers-lieux solidaires. Mais donc peu de données encore chiffrées, objectivées. Pour autant, on va essayer de répondre à la question de ce soir, de cette table ronde, avec un peu des données plus sensibles et avec quelques indicateurs qu'on a quand même, un peu à deux voix. Voilà, on va se passer la parole.
Donc, à quoi servent les tiers-lieux? Je crois que le premier objectif, c'est cette mixité. Enfin, voilà, c'est partager des espaces, se rencontrer. Je pense que ça, c'est quand même notre plus grand objectif. C'est aussi une question d'opportunité. Enfin, voilà, ça fait des lieux qui sont pas chers. Alors, moi, je suis un peu pénible, hein, puisque je suis celle qui gère les budgets. Ils sont en train de se marrer, puisque je suis toujours celle qui dit oui, non, on verra. Pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est souvent quand même, ces tiers-lieux, des opportunités de bâtis dont on ne sait pas exactement encore, les propriétaires ne savent pas exactement quoi faire. Donc, voilà. C'est une place, une chance de pouvoir aussi créer des places. Enfin, nous, on a eu quasiment 200 places créées sur Lyon d'hébergement. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment important. Et puis après, sur le territoire, c'est aussi permettre de répondre à des besoins d'un territoire. Nous, on est sur un territoire de l'ouest lyonnais, donc plutôt riche, etc. Ça répond à des besoins. Ça permet aussi, nous, on essaye, on est en train de s'en rendre compte, c'est de voir, de rendre visibles les invisibilisés. C'est-à-dire que sur ces territoires assez riches, il y a très peu de prise en compte de la précarité. Or, il y a quand même des gens précaires qui vivent sur ce territoire. Donc ça, et c'est de pouvoir leur apporter une réponse adaptée à leurs besoins aussi. Et puis,
Charlotte, sur le social. Voilà, mais je vais faire plutôt la partie sur le social, en tout cas de ce qu'on constate. Déjà, nous, sur le site, il y a 4 centres d'hébergement d'urgence et un centre d'insertion. C'est une particularité. On a la chance, dans le Rhône, d'être non seulement dans l'inconditionnalité de l'accueil, mais encore, on est les derniers à avoir la continuité de l'accueil. Mais ça pose aussi des difficultés. Et c'est important d'avoir ce contexte-là pour comprendre aussi ce que ça apporte, les tiers-lieux solidaires. En fait, aujourd'hui, dans un centre d'hébergement d'urgence, on a quand même pas mal de personnes, en grande majorité, des personnes exilées, qui sont dans des longs parcours de difficultés administratives, qui sont dans l'attente. Et nous, dans le travail social, on accompagne cette attente. On essaye de... c'est des grosses difficultés pour les équipes, mais c'est évidemment de la souffrance pour les personnes. Et ça, dans des centres d'hébergement classiques, c'est un petit peu plus compliqué aussi à accompagner. Là, c'est donc là, pour nous, les tiers-lieux, c'est pas tant un nouveau modèle qu'il faudrait dupliquer à tout prix. C'est vraiment l'idée que c'est une opportunité, c'est la meilleure qu'on ait en ce moment dans le contexte politique actuel. Voilà. Donc nous, ce qu'on constate un petit peu sur le terrain, c'est que ça permet voilà à ces personnes d'accéder à des services, d'accéder à des rencontres, de l'informel. Ça a déjà été dit, mais c'est plus de 80 projets de médiation culturelle. C'est pas rien quand même pour des personnes d'avoir accès, d'avoir le choix. Et aussi, sans tomber dans l'injonction à la participation, puisque c'est ce qu'on essaye d'éviter, c'est que les personnes, elles n'ont pas choisi de vivre sur ces lieux-là. Et ça, on essaie de se le rappeler, mais quand même qu'elles puissent avoir accès, à, comme tout un chacun, à la culture, à la santé. Au-delà de ça, c'est dans les tiers-lieux sociaux et solidaires, c'est quand même l'idée de ne pas être juste dans la participation des résidents, mais bien dans de la co-création, et ça change tout. C'est vraiment cette idée d'horizontalité qui... Alors, on n'y arrive pas, je pense que ce serait vraiment très... c'est notre ambition, on n'y est pas du tout. Mais en tout cas, on y tend chaque jour, et c'est vraiment quelque chose qu'on met en question en permanence, et qu'on met au travail. Dans différents espaces, dans les événements culturels, dans les projets, et aussi dans la gouvernance, parce qu'on a une gouvernance... On s'est beaucoup inspiré quand même des cinq toits aussi sur le choix de gouvernance qui a été fait avec différents comités, dont un, le comité de vie qui rassemble tous les occupants, et là où c'est vraiment une personne, une voix, et on essaye de prendre des décisions ensemble. Alors ça, on n'a pas une participation incroyable, encore une fois, on met en travail les choses. Voilà, donc ça sert à ça, cette co-création. Également, c'est plutôt du côté travail social, ça bouscule les places. Et ça, c'est toujours intéressant quand même de venir tester d'autres manières d'accompagner, de le faire dans d'autres endroits, dans d'autres espaces, de partager aussi avec des bénévoles cet accompagnement, un peu en référence à la première table ronde. Mais c'est quelque chose qu'en effet, on constate sur le terrain. Et voilà un petit peu. Après, il y a quand même des limites qu'on constate, des fatigues des équipes. Il y a beaucoup de choses dans ces lieux-là, beaucoup de choses qui se passent en permanence. Il y a un peu... Donc une fatigue qui s'exprime et aussi quand même cette angoisse de la fin qui est quand même très présente. Nous, c'est dans 2 ans et demi, mais que ce soit les personnes accompagnées, que ce soit les équipes, elles commencent déjà à avoir un peu cette angoisse de comment on se projette. On est dans un contexte politique qui est particulier. Est-ce que les places, elles seront conservées? Est-ce qu'il y aura toujours cette... voilà, donc c'est tout ça qu'on est en train de traverser.
Un grand merci. Donc en tout cas, on retiendra que effectivement l'urbanisme transitoire est un outil, mais vraiment pas une finalité. Aujourd'hui, on a les éléments un peu de preuve montrant que ça peut avoir un intérêt. Voilà, tout l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de pérenniser ces usages, voire de l'insuffler dans le travail social plus classique. On l'a un peu frôlé, et ce serait bien d'approfondir la thématique de l'exil. En quoi, Noémie, ces lieux sont adaptés ou pas adaptés à des profils exilés, notamment dans des quartiers. Alors là, effectivement, que ce soit à Lyon ou au Cinq-Toits, on était dans des quartiers assez spécifiques, ce qui n'est pas forcément très ouvert à ces publics, pour dire le moins. Donc intéressant d'avoir ta perspective.
Merci, William. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être je voulais partir d'une première question à laquelle il est difficile de répondre en seulement quelques minutes, mais voilà, quelques éléments de réponse. Cette première question, c'est: qu'est-ce qui caractérise une personne migrante dite primo-arrivante, c'est-à-dire qui arrive sur le territoire d'installation, ici la France? On parle souvent dans la littérature de double exil, d'un exil à la fois extérieur et intérieur. Un exil extérieur, d'abord parce que la personne migrante, elle n'est plus chez elle, donc elle est en situation d'émigration, mais elle n'est pas encore non plus chez elle dans le pays d'arrivée. Et ce pays d'arrivée lui fait bien sentir, donc elle est en situation d'immigration. Abdelmalek Sayad parle d'une double absence, ni là-bas, ni ici. Un exil extérieur aussi parce que la migration a eu un impact sur les corps, a marqué les corps lors du passage des frontières qui, comme vous le savez, est de plus en plus dangereux et la dangerosité va s'accroître encore hein, avec le nouveau pacte européen notamment. Ça marque, il y a des marques également sur les corps par les actes de torture, de mise en esclavage, d'agression physique et sexuelle, par la précarité également qui est vécue tant dans les pays de transit que dans les pays d'installation. Voilà, je pense que je ne vous apprends rien. Donc exil extérieur, exil intérieur également parce que la migration, elle est semée de ruptures, de désaffiliations, de départs sous contrainte. Également parce que l'expérience migratoire, elle a eu un impact, elle a un impact sur la santé mentale et pas seulement physique. Et puis, exil intérieur aussi parce que les procédures administratives qui permettent l'accès aux droits, comme on le sait, qui sont extrêmement pesantes, hein, lourdes, complexes, elles reposent très souvent sur une condition sine qua non qui est l'obligation, l'injonction à se mettre à nu. À se mettre à nu dans son corps, dans son récit biographique, dans ses souvenirs, dans ses émotions, selon des critères qui sont souvent implicites et parfois contradictoires. Alors ces procédures de mise à nu de la personne exilée, de la personne migrante, elles ont une fonction, la fonction réelle de la complexité et de la complexité des procédures et de la mise à nu lors de ces procédures. La fonction réelle, c'est de décourager. Le dépôt de la demande d'asile, de la demande de séjour, de la demande de reconnaissance de minorité, etc., pour les mineurs isolés. Voilà, une fonction réelle. Et les effets de ces procédures, c'est que la personne migrante, elle se voit dépossédée de son récit, dépossédée de ce que Goffman appelle les territoires du moi, c'est-à-dire dépossédée de son propre corps, de ses propres émotions, de sa propre histoire, de ses propres souvenirs. Ultime dépersonnalisation. Deuxième point qui caractérise la situation de ces personnes, c'est que lorsque des solutions d'hébergement existent, et on le sait, c'est pas toujours le cas hein, pour les personnes déboutées du droit d'asile, déboutées de la minorité, etc., du séjour, mais quand des solutions d'hébergement existent, souvent l'accès à ces solutions est sous contrainte, d'une part, d'autre part, les places, on le sait, sont insuffisantes, et les solutions ne sont pas toujours adaptées aux spécificités de leur situation. Plusieurs travaux mettent en évidence une tendance, par exemple, à infantiliser les habitants, à les priver de leur pouvoir d'agir, ou encore à les réduire à la dimension administrative de ce qu'ils représentent, hein, à leur statut administratif. L'un des facteurs qui explique ça, c'est que les structures d'hébergement sont elles-mêmes sous les contraintes des politiques migratoires qui, comme vous le savez, sont de plus en plus répressives. Ça va produire des pratiques comme par exemple les sorties sèches, c'est-à-dire le fait de, voilà, le lendemain de la décision de l'OFPRA concernant une demande d'asile, eh bien, le travailleur social va se retrouver dans la situation de devoir mettre à la rue la personne. Donc une pratique qui non seulement fait rentrer la personne migrante dans la précarité, mais aussi qui peuvent placer les travailleurs sociaux dans des situations de très forte tension à la fois éthique et déontologique. Donc voilà, première question, qu'est-ce qui caractérise la personne migrante ? Deuxième question, qu'est-ce qui caractérise le tiers-lieu ? Alors je suis pas spécialiste, moi j'ai habité dans des tiers-lieux et puis je me suis un peu intéressée, mais c'est pas un objet d'étude, voilà, de spécialité. Mais il me semble qu'on peut repérer trois grandes caractéristiques. La première, ce serait le partage et la mutualisation des espaces. Donc c'est des lieux de rencontre, des lieux du faire ensemble, de la coopération, et puis des lieux d'innovation aussi, des lieux de créativité, parce que on hybride les pratiques, on croise les différents types de savoirs, etc. Donc partage et mutualisation des espaces. Deuxième caractéristique, l'approche réflexive. C'est-à-dire la capacité du collectif à faire un retour introspectif sur lui-même. La capacité du collectif à faire émerger collectivement un système de valeurs auquel chacun et chacune peut adhérer, parce que chacun et chacune a participé à l'émergence du système de valeurs, et donc du coup un système de valeurs qui va pouvoir organiser l'ordre social de façon pérenne. Et puis troisième caractéristique, c'est l'objectif de l'émancipation. C'est-à-dire souvent le tiers-lieu, il est soucieux de permettre à chacun et chacune, et collectivement, de se saisir de son pouvoir d'agir, de son agentivité, pour pouvoir répondre, apporter des réponses, des éléments de réponse aux grands enjeux sociétaux actuels. Ça, ça passe par l'acquisition de savoir, par la valorisation des compétences, par l'égalisation des droits, l'égalisation des conditions de vie, par l'accès à l'autonomie, par l'accès à la liberté, etc. Et donc, une fois que j'ai posé ces deux éléments de réponse, je crois que c'est là que se situe l'intérêt du tiers-lieu solidaire comme cadre d'accueil pour les personnes exilées, parce que ce sont des personnes, on l'a vu, dont la trajectoire les contraint à la désaffiliation, à la dépersonnalisation, à la déshumanisation, souvent à la passivité, à l'attente, ça a été évoqué, à l'infantilisation, et aussi au sentiment croissant de soupçon, sentiment d'insécurité, voire de criminalisation qui caractérise les représentations et les pratiques de traitement des populations migrantes aujourd'hui. Ces personnes se retrouvent dans des tiers-lieux qui sont des espaces qui, par leur organisation, peuvent induire une reconquête, pardon pour ce terme, une reconquête de leur statut d'acteur social, capable d'agir, de s'adapter, de coopérer et de transformer positivement son milieu.
Merci Noémie. Super intéressant, effectivement. Merci, on peut applaudir. Beaucoup de choses. Alors, pardon, ça m'a. Je suis parti. Frédéric, la FAP est rentrée récemment dans le sociétariat de Plateau Urbain. En quoi ces lieux intéressent la FAP et comment ces lieux hybrides viennent impacter le travail social?
Waouh. Ce qui fonde la façon dont la Fondation Abbé Pierre travaille avec ses partenaires, c'est sûrement de chercher des espaces de rencontre, de travail et de vie qui permettent à toute personne de se sentir légitime et d'être acteur de ce qu'il est en train de vivre. Évidemment, avec le Graal du logement, qui est la première pierre à l'édifice de vie de notre point de vue. Alors, entre ce rêve, cette volonté, enfin, presque cette utopie que nous poursuivons, qui serait que chacun pourrait avoir un logement digne pour pouvoir s'exprimer et vivre ce qu'il a à vivre, avec les moyens, bien entendu, d'y habiter. Entre les deux, il y a des espaces à construire et à conduire qui sont des espaces où il nous semble qu'il faut permettre aux personnes d'accéder, et je ne le dirai pas aussi bien que vous, d'accéder à des espaces où le don contre don peut s'agir et peut se vivre. Alors, le don contre don, ça suppose d'avoir quelque chose à donner, de savoir recevoir et de célébrer ça. Bon, tout le monde connaît Marcel Mauss, hein, je vais pas faire ma spécialiste, mais c'est juste pour rappeler que cette condition du don contre don dans un système qui est approprié par chacun oblige à un équilibre du regard qui est porté de l'un à l'autre sur les collectifs, sur les individus. Et je crois que les tiers-lieux proposent ça, c'est-à-dire proposent des conditions où ça peut s'exprimer. Je dis pas que ça arrive tout de suite et toujours, hein, parce que c'est très difficile l'altérité. C'est quand même très difficile d'être dans la réflexivité, c'est-à-dire de s'interroger individuellement et collectivement sur le regard qu'on porte sur les plus pauvres et les plus précaires. C'est difficile de sortir de ce qu'on a appris depuis des générations et depuis des siècles sur le rapport qu'on doit avoir à la pauvreté, et sur les acteurs de passerelles que sont les travailleurs sociaux entre les mondes. À partir du moment où les tiers-lieux peuvent construire cet espace pour que chacun puisse s'exprimer et avoir à y faire quelque chose ensemble, alors la Fondation s'est intéressée aux tiers-lieux. C'est ce qu'on appelle chez nous la capacitation, c'est-à-dire comment on crée des conditions où il y a une reprise de pouvoir par les personnes, voire une prise de pouvoir par toute personne, que c'est un choix d'y aller. L'injonction au collectif pour les personnes les plus précaires, fragiles, qui ont erré, c'est terrible, hein. C'est-à-dire que vous êtes en centre d'hébergement, vous êtes ailleurs, hein. On vous oblige, vous devez être dans le collectif. C'est très souvent pas un choix. Donc les tiers-lieux, c'est aussi circuler, comme ça, un peu regarder ce qui se passe, pas forcément s'engager, puis à un moment donné, trouver l'opportunité de s'engager. Et à partir de cette expérience positive, pouvoir construire une place pour soi avec les autres dans une dimension, peut-être de faire quelque chose d'utile. Et moi, je trouve que les questions de ce qui s'est développé autour du travail à l'heure ou des espaces d'insertion par l'économique, c'est aussi faire quelque chose ensemble et du coup trouver une place d'altérité qui soit équitable, où on peut se parler. Et finalement, on se parle de choses de l'intime qui n'adviennent plus dans les rendez-vous du travail social, parce que les gens n'en peuvent plus. Je pense que vous avez raison, cette mise à nu, c'est terrible à un moment donné, régulière. Donc ça, c'est important. Et puis, cette question qui renoue aussi pour nous avec la question du plaisir. C'est-à-dire que les personnes en errance, contraintes de vivre à la rue, sans ressources, obligées d'organiser le travail administratif et le travail de la survie, ont quelque chose à réexpérimenter du côté du plaisir et du côté du désir. Et c'est pas une mince affaire. Voilà. Alors, maintenant j'ai dit tout ça. Je vais juste terminer sur quelque chose, c'est que l'altérité, l'autre, c'est difficile. Mais quand on a... Peut-être que la transition, peut-être que les espaces transitoires, ça permet de décider de se mettre d'accord plus vite et de se connaître plus vite et du coup, de créer les conditions de ce don contre don, de quelque chose qui se passe entre les individus, qui est fort. Et le dernier point que je voudrais dire et qui, pour moi, résonne beaucoup chez Plateau Urbain, dans les tiers-lieux qui sont accompagnés, mis en œuvre par Plateau Urbain et d'autres, hein, sûrement, c'est que ce don contre don, il se vit avec la célébration. Et je trouve que ces tiers-lieux, c'est des lieux de célébration. C'est-à-dire que c'est des moments où les individus, de là où ils sont, de leur trajectoire, parfois disqualifiés ou qu'ils l'ont été, eh bien, ils retrouvent une forme d'équité, une forme d'égalité, parce que la célébration, elle est transversale. Et tout à coup, il se passe quelque chose du côté de ce qu'on a réussi ou de ce qu'on a pris plaisir à faire, ou peut-être même le simple fait d'être ensemble. Je suis allée loin, hein, pardon, je me demandais pourquoi la Fondation voulait y aller. Et pour tout ça.
Bon, moi je trouve que ça fait vraiment une très très belle conclusion. On parle de célébration, on parle de lieu. Donc je pense qu'on peut applaudir Frédéric. Alors il nous reste... un petit quart d'heure, on s'est engagé à terminer à 19h30. Ça fait 2 heures qu'on est en train d'échanger sur cette thématique du lien social. On va pouvoir prolonger les échanges à la cantine de Césure, qui est tenue par Yes We Camp. Et on a plein de tickets pour des boissons qu'on va pouvoir distribuer à la fin. Ça serait chouette d'avoir des questions. Alors, il y a beaucoup de travailleurs sociaux. On est parti assez loin dans la réflexion autour de ces tiers-lieux, donc voilà, c'est jamais très simple de poser la première question, mais ouais, hésitez pas à vous lâcher un peu sur ah bah super, voilà, un grand merci.
Justement, j'avais plutôt une question moi pour les travailleurs sociaux. On a beaucoup parlé de la complexité des situations et du temps énorme dont il y a besoin pour accompagner les personnes au vu de la complexité de leur situation, mais aussi de la complexité pour accéder aux droits. Et je me demandais comment les équipes, vous arrivez à vous organiser pour avoir le temps physique et la disponibilité mentale pour participer à la fois à l'innovation sociale des tiers-lieux, mais aussi à toute l'implication nécessaire pour participer à la gouvernance.
Je pense que c'est une question qui s'adresse à une travailleuse sociale et je sens que c'est une question qui vient de quelqu'un qui a pratiqué les tiers-lieux et que c'est pas une question innocente.
On peut répondre à plusieurs, je pense aussi. N'hésitez pas à compléter. C'est sûr que c'est l'enjeu principal pour les équipes sociales dans les tiers-lieux, c'est comment... souvent, on a quand même des financements qui ne permettent pas d'avoir un nombre de personnes dans une équipe pour pouvoir à la fois mener tout de front. Donc après, c'est des... Alors déjà, nous, au niveau des grandes voisines, on a vraiment essayé de construire nos équipes et d'aller aussi dialoguer avec les financeurs en mettant en avant
la nécessité d'avoir des équipes qui est assez dotées et du coup de pouvoir quand même bien faire son travail tout en participant à cette innovation sociale. Après, c'est aussi dans la manière même de penser l'organisation du temps. Par exemple, nous, on essaye d'expérimenter le fait de dégager du temps, mais que ce soit un peu institutionnalisé, pour pouvoir participer à d'autres activités que celles du service. D'autres, donc, c'est 2 heures par semaine où les personnes... Alors, ça peut être plus et ça peut être moins, mais où les travailleurs sociaux ont le choix d'aller à l'extérieur du service et pas forcément en lien avec l'accompagnement social. Et ça permet aussi de nourrir le projet d'une autre manière. Alors, c'est pas complètement satisfaisant, mais c'est, voilà, on expérimente à 2 niveaux.
Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de mutualiser. L'intérêt d'un tiers-lieu, c'est qu'on mutualise. Et par exemple, tout ce qui est distribution alimentaire, bah, c'est des salariés en insertion qui peuvent le faire, qui sont pour certains hébergés sur le site, pour d'autres non, et qui sont payés pour faire cette distribution alimentaire. Et donc, du coup, ça permet aux travailleurs sociaux qui, dans les autres centres, souvent, ce sont des tâches qui incombent aux travailleurs sociaux. Pareil sur la blanchisserie. Enfin, voilà, on essaye de mutualiser et d'utiliser aussi, de permettre de payer des personnes qui sont hébergées pour donner, enfin, voilà, répondre à ses besoins et ses services auprès de l'ensemble des hébergés.
Un grand merci. Une autre question juste devant. Enfin, il y a plusieurs questions. Michael et un monsieur juste ici. Juste, la première personne, la première main, c'était juste devant. Le deuxième rang. Ah, ok, Michael, vas-y. Bon, il y a une question brûlante en haut à gauche. Merci.
Bonjour, question très pratique. Combien d'années il faut pour amortir les investissements? Parce que faut adapter, faut mettre aux normes, faut avoir une certaine qualité de vie. Donc j'imagine que 2-3 ans, c'est peut-être un peu court.
Oui, bonjour et bravo pour le document et la démarche d'évaluation et ce que vous faites, ce que vous portez sur les lieux là dont vous avez parlé. J'avais une question sur les effets sur les environnements politiques locaux, parce qu'on a pas mal parlé de politique. Du coup, dans quelle mesure les deux projets ont fait changer quelques élus ou aucun élu ou une partie? Est-ce que ça a fait débat? À quel endroit? Est-ce que à l'échelle de l'arrondissement et de l'autre côté de la commune, ou on va dire des environnements locaux, vous avez constaté ou vu des changements?
Alors, côté Francheville, nous, on est extrême droite. Voilà, on avait une personne, un maire qui refusait qu'on ouvre, hein, donc ça a été très compliqué. L'ouverture au public a pris plus d'un an et demi. Il refusait de venir aux réunions pour signer le papier. Donc il y a eu une grosse pression politique et étatique pour qu'il puisse venir. Hein, grosso modo, ils lui ont dit « tu viens, tu signes, ou tu viens pas, tu signes pas, tu n'as plus de subvention pour ta commune ». Voilà, pour faire court. Bon, par contre, dimanche soir, les 3 communes du territoire, c'est le RN qui est sorti en premier. Voilà, donc pour l'instant... Alors, est-ce que un peu moins, un peu plus, on n'en sait rien. On aimerait vous dire que d'ici la fin du mois, ça soit le Front populaire qui passe en premier. Mais...
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des changements, c'est avec plutôt les personnes qui travaillent dans les mairies. Les changements, ils ont été notables dès la première année. On avait déjà des personnes qui nous ont aidés directement, notamment sur la partie économique. Le plateau urbain avait fait un gros travail de pré-étude et a pu vraiment construire une relation de confiance. Et ça a un peu emmené, et pour le coup, c'est pas les élus, mais vraiment les personnes qui travaillent sur la culture, c'est pareil. Maintenant, on a des liens avec... avec tous les services et on arrive quand même à construire quelque chose d'intéressant. On a oublié la première question.
Alors la première question, je veux bien rapidement y répondre parce que c'est vrai que c'est une question un peu technique. Alors, enfin, sur la question des amortissements, la réalité de nos lieux, en tout cas c'est la politique au niveau d'Aurore, c'est de tenter de partir sur un minimum de 3 ans. Parce que on estime qu'il faut effectivement à peu près 3 ans pour réussir à amortir un restaurant, un pôle vélo, une bricole. La réalité, c'est que souvent, on va plutôt au niveau de l'assaut, hein, parce que ce n'est pas tout à fait la même politique au niveau plateau urbain, mais on va souvent obtenir des sites pour une durée de 2 ans. Enfin, c'est ce qui s'est passé pour les grands voisins, pour les 5 toits, pour les amarres. Et au final, on va rester plutôt 5, 6, parfois 10 ans. Donc c'est un peu ce type de règle, mais c'est très inconfortable. C'est très injuste aussi pour nos structures associatives qui portent tout le risque. Et effectivement, quand on doit signer des gros devis pour une cuisine qu'on doit amortir sur 2 ans sans avoir aucune certitude derrière, ça peut impliquer pas mal de nuits blanches et ça nous met vraiment en risque à tous les niveaux.
Et peut-être compléter un tout petit peu là-dessus, c'est aussi les fondations privées qui sont là. Pour nous, en tout cas aux Grandes Voisines, il y a eu énormément d'investissements grâce à des fondations privées. Donc en termes d'amorti, après, c'est un peu moins compliqué.
Alice ?
Merci.
Tu peux te présenter, Alice ?
Oui, bonjour. Alice Flamand, je suis l'ancienne coordinatrice du projet des 5 toits et aujourd'hui je travaille pour Yes We Camp. Au début du projet des 5 toits, on était donc sous une mandature Les Républicains et puis à la fin du projet des 5 toits, 5 ans plus tard, on était toujours dans une mandature Les Républicains avec quand même une forte poussée du parti de Zemmour pendant les présidentielles. Pendant la première année et demie d'exploitation, la maire de l'arrondissement n'a participé à aucune réunion à laquelle on l'a conviée. Elle n'est jamais venue sur le site. Lorsqu'elle est venue la première fois, elle est venue presque avec une capuche sur la tête en nous demandant de surtout pas le dire aux habitants de l'arrondissement. On avait déjà réussi à fédérer une communauté bénévole assez importante, qui était principalement des gens qui vivaient vraiment dans les environs immédiats du site, parce que quand on connaît sa situation géographique, on vient une fois quand on habite loin, mais ensuite on revient pas parce que c'est quand même relativement excentré. Donc on avait beaucoup beaucoup de bénévoles qui votaient dans l'arrondissement et qui ont fini par jouer un rôle d'ambassadeur positif auprès des élus locaux et de la mairie. Et puis on a eu un changement de maire. Et donc là, on a eu à nouveau un maire républicain, Francis Spinner, qui, au début, était relativement frileux, je pense pas foncièrement en faveur du projet, mais qui est venu une première fois, puis à plusieurs reprises, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quand même une forme de popularité du lieu dans l'arrondissement et qu'il y avait peut-être... quelque chose de relativement positif à récupérer en termes d'image médiatique. C'est un peu cynique, mais franchement, je crois que c'est ce qui s'est passé. La première fois qu'on a réussi à le faire venir sur le lieu, c'est grâce à la collaboration qu'on a menée avec un opéra du 6e arrondissement. Et en fait, je pense qu'il y a eu une opportunité politique de moderniser un petit peu son image de maire de droite. Et peu après ça, on a été nommé au conseil de quartier d'Auteuil-Sud. Et on a passé les dernières années de l'exploitation à siéger à ce conseil de quartier. Bon, je pense que nos retombées en termes de changement des mentalités à cet endroit-là sont modérées. Mais par contre, on a eu, je pense, un impact assez fort sur un changement de regard de la part de nombreux habitants du 16e. Merci.
Ravi d'être présent, merci beaucoup. Je suis Davido, artiste indépendant et engagé, je me présente par la dignité, et je fais un rebond sur la Transfo, qui est donc le centre culturel d'Eramus Solidarité, qui a été une exposition Liberté, Égalité, Fraternité, ou le chant, et non ou le sang. Et ma question est toute simple, c'est que depuis un bon moment, on essaie de réunir le maximum de personnes pour résoudre le problème des travailleurs sociaux, des travailleurs, je dirais même les travailleurs qui cherchent d'emploi, Moi, je suis un exilé artiste. J'ai dû m'exiler au Portugal parce que j'avais des pressions ici en France. Et je considère que l'ouverture d'esprit est importante. Et est-ce qu'il serait temps d'appeler les ouvrières travailleuses au lieu de les appeler travailleurs? Parce que le mot travail est une forme de torture. Donc, on se laisse torturer par la politique. Et en même temps, je dirais que le Conseil constitutionnel, je les mettrais tous en prison, tout clairement, parce qu'ils ne respectent pas les droits des citoyens, des personnes. Donc ma question, est-ce que la géoculture, dans le temps, prendra plus d'ampleur que la géopolitique? Parce que les artistes, comme les travailleurs sociaux, les travailleurs, que moi j'appelle les ouvriers dans cette ruche, prendront le dessus de ces décisions politiques qui sont arbitraires. Donc ma question, est-ce qu'il serait temps de faire une nouvelle révolution pour changer de régime une fois pour toutes, balayer la République, pour instaurer un nouveau régime qui serait beaucoup plus utile à la société? Donc il serait temps de faire clairement les choses plus actives. Non le sang, le champ, oui. J'appelle à la liberté, non à l'égalité, parce qu'il n'y a pas d'égalité, mais à une consoeur. Non, je termine rapidement. Vous m'avez dit quelque chose de plus direct, je le fais avec beaucoup de joie, que la fraternité est importante, mais la consoeur, où est-elle? Le confrère, où est-il? Moi, je pense plus au partage, à l'égapé, de changer la devise des valeurs pour pouvoir trôner quelque chose de digne et d'éthique. Donc arrêtons de nous mentir, arrêtons de nous laisser douper. Donc moi, je considère qu'une télévision solidaire est importante. Ma question, à quand? À quand la révolution? Voilà.
Et juste, William, pardon, parce qu'il y avait madame qui avait une dernière question.
Ça, on prend non, mais la révolution... Nos lieux sont effectivement peuvent être le support d'une belle révolution. Et là-dessus, on est vraiment d'accord. Et je pense qu'on va. Ouais, on est un peu sur la fin.
Je suis pas obligée de prendre la parole. Hein.
Non, pas du tout. Nicole, on est super heureux de t'entendre.
Voilà.
Bon. Mais juste pour dire qu'on arrive au bout et on peut prendre encore une ou deux questions.
Mais moi, je vais pas peut-être proposer la révolution là, mais j'ai quand même une question. Je suis Nicole Alix et j'anime depuis un certain nombre d'années une association qui travaille sur les communs. Les gens qui s'associent pour se sentir ensemble concernés par un accès aux ressources, développer des activités ensemble, voilà. Donc on s'intéresse aussi beaucoup aux questions des tiers-lieux. Et d'abord j'ai bu vos paroles sur le bas bruit qui est très difficilement évaluable par ces dispositifs un peu à la mode et pour des raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de s'apesantir de genre, dans l'impact social, etc. En fait, ma question est, dans l'expression des complexités que vous traitez, est-ce que vous aimeriez travailler aussi sur l'évaluation de ce que cela représente, le travail que vous faites? Parce que ce sont des dimensions qui sont, la plupart du temps, vous l'avez dit, madame, le monsieur qui est parti, dont j'ai oublié le nom, mais elles sont invisibilisées dans les communs aussi. L'entretien de la communauté, le fait que on arrive à avoir des liens entre les personnes et avec entre des personnes qui sont différentes les unes des autres, c'est plus complexe. C'est plus difficile, ça demande plus de temps, ça demande plus de temps pour chacun, ça demande plus de durée. Est-ce que ça vous intéresserait de travailler sur ce type d'indicateur, enfin d'indicateur, en tout cas d'évaluation? Parce que dans ce qui a été fait jusqu'à présent et qui est absolument remarquable, il n'y a pas ça qui sort. C'est bien sûr, vous. Voilà, c'est l'impact. Enfin, c'est pas l'impact justement. Vraiment, bon, peu importe. Enfin, le tout ce qui se passe du côté des personnes qui sont là et des personnes qui rendent possible, c'est-à-dire pas que vous, bien sûr, puis qu'il y a les autres aussi, mais peut-être qu'il y aurait des choses à faire. En tout cas, moi, je serais ravie d'en discuter avec vous.
Je me lance. Je pense que la question s'adresse à tout le monde, mais. Je pense qu'il y a deux choses quand même qu'on peut se dire. C'est que d'abord, il y a des chercheurs qui travaillent sur ces enjeux-là au long cours, qui écrivent, qui construisent de la compréhension. Vous ne m'entendez pas?
Peut-être avec celui-là.
Ça va comme ça? Je pense qu'il y a des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur ces enjeux-là, qui sont des enjeux au long cours d'observation, de compréhension des interactions, de compréhension de là où les gens partent et là où ils arrivent, de qu'est-ce qui a infusé d'un point de vue culturel dans leur choix, dans leur parfois leur errance ou parfois leur joie. Et que je crois que c'est bien que ce soit des chercheurs qui y travaillent au long cours. Après, ceux qui sont dans l'action, il me semble... D'abord, je voudrais dire qu'on est pris dans un contexte aussi où il est très difficile aujourd'hui de communiquer sur ces enjeux-là dans le monde dans lequel on vit sans aller dans la recherche. Parce que tout va très vite, tout passe. Et qu'il me semble que c'est important qu'il y ait des événements comme celui-ci et d'autres où il y a du partage d'acteur à acteur, pas que du témoignage, du partage, de la construction ensemble, et que ça, ça diffuse aussi. Que l'attente d'une diffusion qui serait une mesure d'impact sur le comment les choses se sont faites et qu'est-ce que ça a fait à chacun, c'est quand même du domaine de la recherche, et je crois qu'il y a des gens qui font un travail formidable sur ces aspects-là. Après, en tout cas, en tant qu'actrice au travail sur ces sujets, ce qui m'intéresse, c'est justement le débat, le dialogue, et puis à un moment donné, de construire un projet ensemble, de s'entendre pour le faire, de le mettre en œuvre, de comprendre ce qui a dysfonctionné, ce qui a fonctionné, et de recouvrer la joie de se dire qu'on l'a fait, quoi.
Juste pour effectivement rebondir sur votre réponse, il y a effectivement une littérature qui existe sur le sujet. Je pense notamment à un travail relativement récent sur ce qui a été appelé les indicateurs de capacité relationnelle, RCI en anglais, qui notamment sont des indicateurs qui ont été utilisés pour étudier la qualité du tissu social et des relations dans les écolieux. Voilà, donc effectivement, ça peut être intéressant. Et puis plus largement, il y a tout un ensemble d'indicateurs qui ont été construits dans l'objectif de proposer des alternatives aux indicateurs classiques de type PIB ou IDH. Et je pense par exemple, voilà, classiquement aux donuts de Rauers, qui en fait, et puis d'autres indicateurs de ce type-là, qui ont pour objectif d'affirmer et d'argumenter que la justice sociale doit être au cœur de nos initiatives, de nos projets collectifs, quoi. Donc voilà, quelques pistes.
Alors j'ai dit qu'on pouvait prendre encore une question, effectivement, après Nicole. Donc on va prendre la dernière question avant de clôturer.
Bonsoir et merci. La question s'adresse plutôt aux personnes qui ont travaillé, aux travailleuses sociales qui ont travaillé sur ces lieux. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir emporter de ces expériences dans vos futurs postes qui peut-être seront dans des centres d'hébergement plus traditionnel, et où je trouve, c'est un point de vue, on voit peu la porosité de toute cette richesse qui peut se déployer sur les tiers-lieux.
Je pense que ce sera difficile de retourner travailler dans des lieux classiques. C'est un peu la réflexion qu'on se faisait avec différentes personnes des équipes sociales, de dire... On ne pourra pas revenir à un modèle plus classique. Il va falloir qu'on crée d'autres formes. Ce ne sera pas exactement une volonté de dupliquer ce qu'on aura connu. C'est comment créer encore d'autres formats. Mais c'est sûr qu'on ne reviendra probablement pas sur du centre d'hébergement classique.
Voilà. Bon, écoutez... On va pouvoir clôturer. Donc, je vous propose. Moi, c'est vrai que je rebondis sur ce que disait Michael, l'importance, enfin, de tous les travailleurs sociaux, services civiques, stagiaires, parce qu'on a beaucoup de monde qui sont investis dans ces lieux. Donc, j'ai vraiment très envie de profiter de cette tribune pour remercier les équipes des Cinq Toits, les Grands Voisins. C'était aussi très chouette d'avoir cette rencontre avec le monde de la recherche. On a encore beaucoup de travail à faire pour mettre en œuvre ces indicateurs, mais un grand, grand merci aussi à vous, chercheurs, chercheuses. Je pense qu'on peut les applaudir. Et je vous propose de nous retrouver. Donc, on va avoir une distribution de tickets à la sortie. Donc, continuons les échanges à la cantine de Césure qui se trouve juste au-dessus. Merci beaucoup.